Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Elle débrief.
Elle débrief.
Élodie Petit
et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile
avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief, le podcast qui vous accompagne même pendant les vacances de Noël. Ah, on n'est pas bien là, au chaud alors qu'il fait au moins moins 8000 dehors, à manger des choses bien grasses, à ne rien faire si ce n'est regarder de très mauvais téléfilms de Noël, à être gâté avec des beaux cadeaux. Enfin, peut-être que vous vous coltinez une famille insupportable qui vous demande pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants, peut-être qu'on vous a offert un cale-porte ou un parapluie et vous n'arrivez pas à regarder la télé parce que vos petits cousins hurlent dans le salon. Allez, c'est les fêtes, détendez-vous, enfermez-vous dans la chambre de votre neveu de 8 ans, allongez-vous sur son lit, blottissez-vous sous sa couette Pokémon, montez le son, c'est notre moment. Je suis Élodie Petit, rédactrice en chef adjointe de Elle.fr et j'adore Noël. Et comme chaque semaine, je suis avec Elisa Casson, journaliste forme et beauté, qui déteste Noël. Salut.
Salut, c'est vrai que je déteste Noël.
Pourquoi ?
Ah, je déteste cette période, je la trouve angoissante, se forcer à être heureuse, ouh, super, c'est Noël et tout. Non, je déteste.
Donc, on a une personne un peu dépressive, finalement.
Bah oui, bah, en même temps, c'est pas un secret.
Bon, et qui dit Noël dit Père Noël, certes, mais dit surtout Mère Noël. Et qui mieux l'incarne que Mariah Carey ? Et oui, la reine de Noël, c'est elle, depuis qu'elle a sorti en 1994 le tube « All I Want for Christmas is You ». Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Vous les entendez, ces 13 notes cultes. Il ne s'agit pas de grelot, pas de synthé, mais d'un célestat. Tu sais ce que c'est, Elisa ?
Bien sûr, mais attends, oui. Je te rappelle que je suis chanteuse.
Oui, c'est un espèce de piano comme un clavecin rendu populaire avec le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. On associe ces notes à un son sucré, un peu gourmand, et les compositeurs s'en servent désormais souvent pour illustrer des musiques de Noël. Vous l'avez entendu dans des films comme Harry Potter, alors c'est pas un film de Noël, même si certains disent que oui, ou dans Maman, j'ai raté l'avion, on écoute. On est en 1994, la maison de disques de Mariah Carey lui propose un album de Noël. Avant ça, elle avait déjà fait 2 albums et 1 EP. Alors ça se fait pas trop, hein, comme ça en début de carrière, de faire un album de Noël. C'est plutôt quelque chose qu'on fait à la fin, ou en tout cas quand on est en fin de contrat avec sa maison de disques pour un peu écouler les dollars qui restent. Mais Mariah, depuis toute petite, elle adore Noël, alors elle accepte.
The thing is, I always wanted Christmas to be perfect. And I always looked forward to the holidays. And then I have this incredibly dysfunctional family that would ruin it every year. Not my mom. My mom would try to make it fun. But we didn't have a lot of money. So sometimes she would like wrap up fruit and like whatever it was that she could afford. And I was like, when I grow up, I'm never going to let that happen. I'm going to make Christmas perfect every year.
Vous l'entendez, c'était dans son docu sur Amazon. Elle raconte l'histoire de cette chanson. Elle dit qu'elle a toujours rêvé de Noël en grand, mais elle a grandi sans le sou. Sa mère lui offrait ce qu'elle pouvait. Et quand on lui propose de faire des reprises de chansons classiques de Noël, elle dit qu'elle aimerait plutôt une chanson qu'elle compose elle-même qui la rendrait heureuse. Et dans ce docu, on la voit, enfin on la voit pas d'ailleurs, c'est elle qui raconte que dans sa maison au nord de New York, elle se met au piano alors qu'elle est très mauvaise pianiste, mais qu'il s'est passé un accident heureux en pianotant dessus. Et pour les paroles, ça a été écrit très rapidement. En gros, elle a fait une liste de tout ce qu'elle voulait pour Noël étant enfant. Et finalement, ce qu'elle veut vraiment, c'est retrouver l'amour qu'elle a perdu. Donc tout ce qu'elle aime, c'est les cadeaux, accrocher les chaussettes sur la cheminée, les lumières de Noël, la neige. Et d'ailleurs, ses paroles préférées, Elisa, tu sais ce que c'est ?
Non.
C'est « I won't even wish for snow ». I won't even wish for snow. Je chante très mal, excusez-moi.
Non, je chante très bien.
Je chante très bien, mais là, je me donne pas.
Cette alors, fausse modestie.
On va vous dire un peu les dessous. C'est qu'on est un peu malade.
C'est vrai qu'on est malade.
On est un peu malade. Du coup, c'est un peu compliqué.
Alors,
aujourd'hui
je n'ai pas le Covid. Hein, mais...
Moi non plus. Musicalement, cette chanson, elle a un côté rétro, ce qui plaît toujours pour les chansons de Noël. Et d'ailleurs, Maria l'a dit elle-même, elle s'est inspirée de chansons des 50s, des 60s, on pense aux Ronettes par exemple. Et ça n'a pas du tout un son des années 90, ma décennie musicale préférée, comme tu le sais. Et à sa sortie, eh bien, la chanson, elle n'a pas le succès qu'elle a aujourd'hui. Alors, elle se place quand même 12e dans le classement Billboard, qui est le classement de référence. Mais en fait, elle revenait chaque année. Et en 2003, 9 ans après sa sortie, la chanson bénéficie d'un coup de boost énorme. Est-ce que tu te rappelles ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Est-ce que tu peux deviner ?
Non. Voilà. Je ne peux pas. Non, je vois pas.
C'est la sortie du film préféré de la planète,
ah,
du film de Noël préféré,
Love Actually.
Exactement. Ouais. Et la chanson, elle est reprise par une petite fille qui s'appelle Olivia Olson, qui la chante à la fin du film. La scène est culte. On écoute. J'avoue, j'ai certainement plus écouté cette version que la version de Maria. Enfin, je pense que ces dernières années, ça s'est inversé.
Oui, c'est clair.
Tu vois très bien cette chanson,
oui, je
tu l'as beaucoup écoutée.
Oui.
D'ailleurs, Spotify, vous l'avez enlevée, ça m'agace profondément. Remettez-la, s'il vous plaît. C'est peut-être pour que ça fasse grimper les chiffres de Maria.
Peut-être.
On va en parler après, d'ailleurs. Et donc, depuis plus de 10 ans, chaque année pendant les fêtes, la chanson est une des plus écoutées au monde et sa popularité ne fait qu'augmenter. C'est fou parce qu'elle est sortie il y a quand même 28 ans. Et en 2019, soit 25 ans après sa sortie, elle arrive en première position du classement Billboard, ce qui m'amène à parler du business derrière tout ça. All I Want For Christmas Is You, c'est un disque de diamant. C'est plus de 16 millions de disques vendus. C'est son plus grand succès international à Maria. C'est le 11e single le plus vendu de tous les temps. En 2017, la chanson, elle avait rapporté cumulé depuis sa sortie, 60 millions de dollars de royalties. Sachant que c'est elle qui l'a écrite, elle
ça va
se
bien
met
pour elle.
Très bien.
Ouais.
Elle détient 3 records Guinness. Comment, je ne sais plus comment on dit là.
Oui,
voilà,
on a compris.
Excusez, c'est la maladie qui frappe. Comme par exemple celui de la plus écoutée sur Spotify en 24 heures. Faudrait regarder avec les classements récents si Taylor Swift n'est pas passée au-dessus. Je crois que oui. Maria, elle en a fait un livre qui est sorti en 2015, qui est quand même vendu 34$ sur Amazon. Hein. John Mayer, Demi Lovato, Shania Twain, c'est quelques-uns des dizaines d'artistes qui ont repris la chanson. Et la chanson, elle a aussi inspiré un doc sur Apple TV+, Mariah's Christmas, The Magic Continues. Alors figurez-vous qu'à cette occasion, je l'ai interviewée.
Mais oui, c'est vrai.
Mais oui.
Quel grand moment,
sauf qu'on était en plein Covid.
Bien
donc
sûr.
Je n'étais pas à Los Angeles et elle n'était pas à Paris. J'étais à la campagne en pyjama puisqu'il était 7h du matin, 22h, heure de Los Angeles. Heure du call time pour l'interview et que Maria Carré s'est connectée à 11h du matin. Donc j'ai passé 4h à l'attendre. Je t'embrasse Maria, merci pour cette interview à 2h du mat chez toi. Et quand elle est apparue à l'écran, fou rire. Donc moi j'avais un vieux pull, vraiment c'était en plein confinement donc j'étais pas au top de mon esthétique. Et elle était allongée sur un canapé avec des chihuahuas autour d'elle, des énormes sapins derrière elle, enfin la totale Mère Noël.
Maria Carré.
Elle était géniale. Et je suis allée fouiller. C'était pas ma meilleure interview. Hein. Parfois, il faut être honnête avec son propre travail.
Mais tu l'avais toute seule ?
Non, on était quelques-uns.
Okay.
Il y avait des journalistes d'Inde, des journalistes aux États-Unis.
Oui,
j'étais vraiment pas toute seule. Je lui ai posé la question sur ses enfants, son rapport, comment elle leur fait vivre la magie de Noël, évidemment. Et elle m'a répondu. Je me rappelle la première fois qu'on est allé à Aspen. Alors Aspen, c'est une station de ski très prisée des VIP. Ils étaient emmitouflés dans leur combinaison rouge et verte sur une luge. On les tirait. Ils ne s'en souviennent pas, bien sûr, mais c'est mon plus beau souvenir. D'ailleurs, j'ai une photo de ce jour. Il faudrait que je la poste sur Instagram. Et voilà, je ne sais pas si elle l'a posté depuis. Je vais aller vérifier si je lui ai inspiré un post Insta. Des millions de likes. Et je lui ai demandé aussi si ses enfants, donc c'est des jumeaux qui s'appellent Marocan et Monroe.
Oui.
Un garçon et une fille, s'ils avaient conscience de qui était leur mère et surtout du fait que c'était elle, la mère Noël. Et elle m'a répondu, ils s'en rendent compte qu'on fait les choses en grand. Maintenant, ils savent que j'ai sorti des chansons, ils l'ont compris. S'ils n'aimaient pas Noël, je serais déçue. Je me donne tellement de mal. Ils savent que je fais ça pour les rendre heureux.
Oh, c'est mignon.
Eh oui, eh oui. Mais Maria, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que Noël, c'est aussi une immense carrière. Elisa, raconte-nous les autres succès de Maria Carré.
Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais ce n'est pas qu'une chanteuse de Noël. Et c'est d'ailleurs sans doute l'une de nos dernières divas. Alors, son histoire avec le public commence en 90 avec son premier album, sobrement intitulé
Maria Carré.
Bien sûr, Maria Carré. Les titres « I Don't Wanna Cry »,« Vision of Love » prennent la première place des charts. Maria Carré reste 11 semaines en tête du classement musical américain de Billboard et vend plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde. À cette époque, elle a tout juste 20 ans et sur son premier album, pas mal.
Oui, oui. Bah, non mais quand même, ce qu'on oublie de dire, c'est que Maria Carré, c'est quand même une voix de ouf.
Ah bah, voilà. C'est l'une des plus belles
oui.
voix.
Elle dit toujours, moi j'ai tant d'octaves, genre je sais
oui,
pas,
je crois
7
qu'elle
ou 8.
Elle en a 5,4. Alors,
c'est
sais,
tout
je ne sais pas ce que
je crois que Céline Dion, elle est bien au-dessus.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, 0,4.
Bah si, une octave, c'est 7 notes. Donc en fait, 0,4, ça veut dire qu'elle a 3 notes en plus. De...
Merci Armand Altaï.
Mais non, mais une octave, c'est de do à...
Oui, do ré
mi. Si, enfin de do à do, quoi, de do à si. Mm-hmm. Donc si t'en as 5, ça veut dire qu'elle peut faire do ré mi,
wow.
etc. Et ensuite, elle s'arrête à une moitié d'octave.
D'accord, d'accord.
Alors je vous explique, ça fait des années que j'essaye d'apprendre le solfège à Elisa.
C'est compliqué, c'est compliqué. Et donc, les années suivantes, bon, elle continue de surfer sur le succès. Elle sort 7 chansons.
Ah, mais c'est Ken Lee. Tu te rappelles pas de cette vidéo YouTube trop drôle où c'est une nana, c'est genre la nouvelle star, mais je crois que c'est en Turquie. Et la nana, elle vient et elle dit « Je vais chanter Ken Lee de Maria Carré ». Et le mec dans le jury lui dit « Ah, tu veux dire Without You ?» Et elle chante et elle fait « Ken Lee !»
Ah si, je vois,
vois,
je vois.
Elle est tellement drôle cette vidéo.
Je vois. Je
chante
pas.
Ken Lee.
Et donc cette chanson, c'est une reprise en fait, mais ça la propulse sur le devant de la scène internationale. Elle est numéro 1 au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Belgique, et ça devient l'un de ses plus grands succès en Europe. Et on l'a dit, en 1994, elle sort...
All I Want For Christmas Is You.
J'aurais aimé une petite...
All I want for Christmas is you.
Ah ouais, ok, là t'étais sur combien d'octaves?
Moi j'ai une octave,
ouais.
0,4.
Ouais, c'est ça. Et donc contrairement à Elodie, là elle devient une véritable diva. Et en 97, après son divorce avec Tommy Mottola, j'en parlerai plus tard.
Excusez-nous.
Qui était également son mentor. Et puis bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais qui exerçait une certaine emprise sur elle.
Oui.
Elle se délivre de cette emprise et elle sort l'album... Butterfly,
oh,
qui est synonyme de sa liberté retrouvée. Et là, elle se tourne vers le R&B.
Oui, oui. Mais elle a toujours été un peu... Enfin, c'était
elle
un peu plus balade
soul,
avant. Oui, oui.
Tu vois. Bon, après ça, on va être honnête.
Ah, tu donnes pas les chansons de Butterfly parce que c'est le meilleur album ever.
Eh ben, écoute, vas-y, donne-les.
Bah, Butterfly, il y a Honey. And it's just like... Tu connais pas Honey?
Non, non, moi
okay,
je...
Ok, il y a Butterfly, il y a My All... Tu te rappelles
ah
pas
bah
de cette
bien
chanson
sûr.
Voilà. Et il y a... Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas Heartbreaker. Ça doit être l'album d'après qui, je crois, s'appelle Heartbreaker. Non, pas du tout. Il s'appelle Rainbow. Pas du tout. Il s'appelle Rainbow. Je viens de vérifier. Pardon, tu peux reprendre.
Donc, après l'album Butterfly, elle va connaître une petite période... Oh, ça... Le succès va moins être présent. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'essayer au cinéma.
Eh oui!
Est-ce que tu te rappelles d'un de ces films?
Oui.
Vas-y, lequel?
Glitter.
C'est mon film préf qui a été enfin, pas mon préf ever. Mais
oui. Non.
Mais j'adore ce film. J'étais petite quand je l'avais vu et je me rappelle, ça m'avait marqué. Et là, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il avait été vachement critiqué.
Mais bien sûr, c'est extrêmement mauvais.
Mais oui, c'est mauvais, mais c'est bien. Tu vois, c'est comme After.
Et elle est aussi dans...
Oui,
j'ai honte. Faut pas qu'on enregistre des choses. On peut pas dire devant témoin qu'on regarde ce genre de film.
La trilogie
elle est,
After.
Elle est aussi dans Le Majordome,
oui.
De Butler, de
ouais.
Daniel Lee.
Oui.
Qui raconte l'histoire vraie du majordome de la Maison Blanche.
Exactement. Ensuite, elle va faire un album où elle va collaborer avec, par exemple, Snoop Dogg. Elle va dévoiler des titres comme We Belong Together ou Shake It Off.
Ouais, et We Belong Together, elle est censée être, c'est censé être une de ses meilleures chansons... En fait, je dis ça, c'est pas mon avis, c'est elle-même qui l'a dit pendant l'interview justement de 7h du mat.
Oui.
Comme elle est très modeste,
oui.
elle a répondu à un des journalistes, je me rappelle très bien, elle a dit, je sais plus ce que c'était exactement, mais en gros, elle a dit, je vous rappelle que j'ai quand même sorti We Belong Together, qui a été classée comme la meilleure chanson au monde par je ne sais plus quoi, mais ça m'avait fait beaucoup rire qu'elle sorte ça, tu vois, qu'elle récite son palmarès comme ça. Je vais te trouver l'info, continue.
D'accord. Et malgré ces titres-là, bon, bah, l'album, il cartonne pas non plus, et en 2008, elle va renouer avec le succès avec Touch My Body. Et ça, c'était... Tu connais pas ?
Si, mais pour moi, c'est pas culte.
Oui, mais... Oui, c'est peut-être pas... Si, c'est culte pour les gens de mon âge. Pardon.
Ah, ok.
Voilà, pour les gens de mon âge, c'est assez culte. Et là, elle va nous faire du Mariah Carey tout craché avec un clip de diva. Moi, j'adore. Et puis, en 2009, elle va revenir au cœur de l'actu. Et en préparant ce podcast, on s'en est pas parlé, Élodie, de ça. Et je trouve que... Je sais pas pourquoi on est passé à côté de cette info. Elle revient en 2009 avec le titre...
Mimi, The Inspiration of Mimi. Non, ça, c'était bien avant.
C'est un titre, en fait. C'est une chanson qui cache le plus grand clash de l'histoire de la pop. Avec qui elle s'est clashée par chanson interposée?
Avec Whitney Houston?
Non.
Oh, t'as pas parlé de Whitney Houston. Vas-y.
Avec Eminem. Tu te rappelles pas de cette
chanson? Je me rappelle pas. C'est quoi comme chanson?
Obsessed. Why are you so obsessed with me? Ok, donc je vais t'expliquer ce qui s'est passé. En fait, ça commence en 2002. Eminem, il prétend avoir une relation avec Mariah Carey pendant plusieurs mois et il l'explique dans une de ses chansons qui s'appelle Superman. Et Mariah, elle a toujours nié sa relation dans des interviews et elle va lui répondre en musique dans une chanson qui s'appelle Clown, dans laquelle elle dit « Tu n'aurais jamais dû insinuer qu'on était ensemble alors que tu sais très bien qu'on ne s'est même pas un peu touché. » Alors le clash continue, Eminem va refaire une chanson et là, Mariah va à nouveau répondre avec ce tube phare des années 2000. On écoute. Les paroles sont plutôt claires et elle dit « Tu es fou mec, tu prends la tête, pourquoi tu es si obsédé par moi? Pourquoi tu mens et dis qu'on a couché ensemble? Tu dis au monde que je ne te manque pas, mais on n'a jamais été ensemble, tu craques. » Et le clip, il est... Tu vois pas ce clip? Le clip, il est
non,
trop bien.
Comme elle tu le sais, je consomme pas beaucoup de clips.
Ouais, mais celui-là, il est iconique. Genre, elle est déguisée en un personnage qui ressemble à Eminem et il la suit partout et tout. Et ça avait fait polémique. Et lui, il avait, quand elle a eu sa relation avec Nick... lui, il avait fait plein de chansons.
Nick Cannon.
Ouais, lui, il avait fait plein de chansons sur eux et tout ça. Et en fait, c'est une histoire. Enfin, ils ne se sont jamais sortis ensemble.
Ok. C'est un mais peu après, Eminem, il est très dans les clashs à l'époque. Il avait clashé beaucoup Christina Aguilera, Paris Hilton aussi. Et alors, j'ai l'info sur les billboards. Tu sais, la chanson We Belong Together.
Oui.
En fait, elle a battu tous les records ever. Enfin, non, c'est pas vrai. Elle a battu beaucoup de records. Notamment, elle est restée 14 semaines numéro 1 du classement Billboard, ce qui est énorme. Et c'est sa deuxième chanson qui est restée le plus longtemps. Sachant que la première, c'est une chanson qu'on n'a pas citée, mais qui est une de mes chansons préférées de Mariah Carey, qui est un duo avec les Boyz II Men, One Sweet Day. On écoute. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'était important, j'adore cette chanson.
Oui, je comprends.
Tu la connaissais?
Pas du tout.
Ouais.
Alors ensuite...
Mais ça, c'est typique de notre...
gap.
De notre generation gap, c'est que on a, sur un même artiste, on n'a pas les mêmes chansons
ça,
en ref.
On n'a pas les mêmes refs.
Mais c'est bien, nous deux,
mais
on se complète.
Bah voilà, c'est ça. C'est la force de notre duo, Elodie.
Ouais.
Donc ensuite, malheureusement, on va parler d'elle que pour ses extravagances et ses prestations un peu ratées, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle a fait de ses 5,4 octaves, parce qu'elle fait des prestations en live, bon bah, elle chante pas très très bien. Moi, j'ai pas eu la chance de la voir en live, mais toi, peut-être.
Oui. Alors, ben, je l'ai vue une fois, effectivement. Tu vois, ça m'a pas marqué parce que je l'aurais écrit sinon en préparant ce podcast. Mais là, en t'entendant, je m'en suis souvenue. C'était le jour de la mort de Prince. Je me rappelle très bien parce que tout le monde était en dépression à Bercy. Et c'était pas mémorable du
bah
tout.
Oui.
Non, mais en fait, après, elle a des chansons bien, donc c'est sympa et tout. Mais c'était.
Mais tu l'as vue à Cannes aussi, non?
Ouais, je l'ai vue exactement aussi. Bah, comme quoi, c'est.
Et elle
ça
a chanté.
Pas. Elle a chanté.
Et c'était pas.
Ça, non, mais ça, c'était très bien. Parce que c'était. Elle a chanté genre 5 chansons et c'était 5 chansons cultes. Et on était prêts, tu vois, c'était une petite soirée, donc on pouvait la voir bien. Là, Bercy, j'étais sur les côtés, dans les gradins, elle avait pas mis un écran, on voyait rien. Enfin, elle faisait le strict minimum. Après, je ne suis pas d'accord avec les gens, je trouve qu'elle chante quand même toujours très bien.
Je pense que c'est quand elle veut, en fait.
Ouais, ouais.
Je pense qu'elle doit pas beaucoup travailler sa voix. Et ça, c'est le succès. C'est la clé du succès, travailler sa voix.
Et le solfège.
Exactement. Et puis, en 2020, elle a fêté ses 30 ans de carrière.
Ah ouais.
Quand même. Depuis 2022, elle a profité pour sortir 2 albums. Bon, bah...
C'est plus que c'était. Hein.
C'est plus que c'était, mais ça a été quelque chose. Donc pour ça, moi, je lui tire mon chapeau, Maria.
Il y a une chose que t'as pas dite qui est vraiment un point clé dans sa carrière, c'est le moment où elle a fait la Starac et qu'elle a failli repartir avec Georges Alain.
Bah ça c'est quand même le meilleur moment de sa carrière, je pense.
Et oui, vous vous en rappelez peut-être pas aussi bien que nous parce que nous on a vécu ce moment très fort, mais elle voulait embarquer Georges Alain. Je comprends parce que comme vous le savez peut-être si vous nous écoutez fidèlement, c'est mon académicien préféré.
Tu l'aurais embarqué aussi.
Je l'aurais embarqué direct, mais moi j'aurais réussi. Je l'aurais fait monter dans cet hélicoptère. et ça m'amène à qui sont les hommes de sa vie, Elisa.
Dans les années 80, Mariah Carey rencontre le PDG de Sony Music, Tony Montola, qui s'appelle pas Montola, mais Motola, pardon.
Oui.
J'aimerais bien pouvoir rencontrer moi aussi un PDG, mais
ça t'arrivera peut-être.
Voilà.
Et mais c'est... je te souhaite de pas avoir besoin de faire une rencontre comme ça et d'être toi-même PDG de ta vie.
Alors, moi, c'est pas ça, c'est juste pour faire des albums, en fait.
Oui, bah, tu...
Oui, je peux faire très bien un album par moi-même, exactement. Alors, c'est pas ce qui s'est passé pour Maria, il se rend compte, coup de foudre artistique, il lui promet 10 albums, il lui signe directement 10 albums, et puis en coulisses, il tombe amoureux. Ils se mettent rapidement en couple, ils se marient en 93 pour divorcer 4 ans plus tard. La jalousie excessive de son mari, qui est allée quand même jusqu'à la faire suivre et la mettre sur écoute et l'enfermer dans sa propre maison. Donc bon, finalement, je retire, j'ai pas trop envie de sortir avec un PDG aussi fou. Et donc, c'est ce qui a causé évidemment leur rupture. Et en plus, je l'ai dit tout à l'heure, il avait vraiment une emprise professionnelle sur elle. Et donc, elle en pouvait plus. Après son divorce, elle va avoir des relations amoureuses assez courtes. Et puis, en 2008, elle va vraiment retrouver l'amour avec l'animateur radio Nick Cannon. Moi, je ne connaissais pas.
Moi non plus.
Voilà, on connecte parce que...
Oui, et voilà. Aujourd'hui... Ah pardon, vas-y.
Aujourd'hui, il a plein d'enfants.
C'est ce que j'allais dire, il a 12 enfants, non?
Je crois que là, cette année, il a eu son 7e ou son 8e.
Et il a donné une interview il n'y a pas longtemps, genre il y a 2 jours, quoi, parce qu'il en a eu un il n'y a vraiment pas longtemps.
Oui, oui.
Et il dit, le plus difficile, c'est d'arriver à consacrer mon temps à tous mes enfants.
Ah bah oui, t'imagines.
J'imagine.
Oui.
Déjà... Quand tu t'occupes d'une personne, c'est compliqué.
Oui.
Alors,
déjà, nous, avec nos animaux, c'est compliqué. Alors, 8 enfants à nourrir.
On est vraiment des pauvres. Ça, on garde.
Ça, on garde. Ils se marient quelques semaines après leur rencontre. Tu pourrais, toi, te marier quelques semaines après
là ? Non.
Moi, je pourrais. 3 ans après, Mariah Carey donne naissance à des jumeaux. Une fille prénommée Monroe et un garçon du nom de Morocan. Et puis en 2014, c'est le drame. Nick demande le divorce, qui sera officialisé en 2016. On ne sait pas vraiment le pourquoi, du comment. On sait juste que malgré le divorce, il reste très, très fusionnel. Et d'ailleurs, cette relation a causé quelques problèmes avec les petites amies de Maria qui n'en pouvaient plus de voir Nick Cannon tous les jours. En même temps, c'est le père de ses enfants. C'est un peu normal. Et en 2015, la diva va succomber au charme du milliardaire et homme d'affaires australien James Packer. En janvier 2016, il la demande en mariage à New York avec une bague de fiançailles d'une valeur de 10 millions de dollars. Pas mal. Mariah Carey accepte et c'est à ce moment-là qu'ils officialisent leur relation. Mais quelques mois plus tard, la relation prend fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 versions. La première, c'est que les dépenses de la chanteuse auraient un petit peu énervé le milliardaire. Et la deuxième, c'est plus du côté de Maria. Et elle explique qu'il était très, très, très jaloux. Et il avait fait une fixette sur l'un de ses danseurs. Et elle n'en pouvait plus, comme elle avait déjà vécu une relation assez conflictuelle à ce sujet avec le PDG de Sony. ça s'est terminé, il n'y a pas eu de mariage. Et depuis, elle est plutôt très très discrète sur ses relations amoureuses. On pense qu'elle est célibataire. Elle a juste dit que son petit ami, futur mari, devait aimer Noël. On comprend pourquoi.
Oui, Noël ensemble.
Oh,
passer Noël ensemble.
J'adore cette réponse. Et toi, est-ce que tu l'aimes bien ?
Bah, en fait, oui. Non, mais en fait, j'en écoute quand même souvent, mais j'écoute toujours les mêmes. Et il y a une chanson qu'on n'a pas citée parce que c'est une musique de film. C'est la musique du Prince d'Égypte avec Whitney Houston.
Ah oui, c'est vrai.
When You Believe. Oui. Qui est vraiment, mais.
C'est quoi ta chanson préf?
De Diva, de Maria.
Ouais. Bah oui. Oui. On est quand même en train de faire un podcast sur elle.
En fait, si on met à part All I Want for Christmas Is You, qui est quand même dans sa catégorie chanson de Noël.
Ouais, voilà.
Je pense. J'hésite entre One Sweet Day et quand même Heartbreaker. Qui, tu vois ou pas Heartbreaker?
Non, je connais pas.
C'est un duo avec Jay-Z, on écoute. Je sais pas, alors tu connais pas, mais dans le clip il est assez culte. C'est Maria qui va au cinéma, elle a un petit haut en crochet rose, un jean, et elle va au ciné. Et Jay-Z, il est en dessin animé sur l'écran. C'est trop, trop bien. Et ensuite, la musique s'arrête. Il y a une autre musique, un peu genre film d'espionnage. Et elle va aux toilettes et elle voit sa concurrente, sa rivale, mm-hmm. tu vois, qui est en brune. Et c'est elle.
Ah,
tu vois, c'est
okay.
elle en brune. Et en fait, elles se battent ensemble. C'est trop bien.
Ok. Et moi, ma chanson préférée, vu que tu le demandes pas.
Ah oui.
C'est Hero.
Ah, mais bien sûr.
Bien sûr.
Ah oui, j'avoue,
on peut
l'adore.
Écouter.
Allez,
écouter.
On l'écoute. Allez Elisa, dans la plus pure tradition de L Débrief, je crois que tu m'as préparé un quiz.
Oui.
L Débrief.
Dis-moi que tu m'as fait un quiz chanson de Noël.
Pas du tout.
Oh,
j'ai vraiment
déçue.
Fait un quiz premier degré. Maria Carré.
Ah, je pensais que tu me ferais un quiz de chanson
c'est
de
Noël.
C'est
vrai que ça aurait pu, ouais. Surtout nos connaissances.
Oui.
Bon, c'est vrai. Mais c'est pas ça.
Ok.
Première question. Durant son adolescence, les amis de Maria la surnommaient Mirage. Pourquoi ?
Parce qu'on la voyait jamais.
Parce qu'elle séchait les cours pour aller faire de la
musique. Eh oui.
Bravo. Quelles sont les parties du corps que Maria Carré a
assuré
fait assurer et pourquoi ?
Ses jambes. Parce qu'elle danse ? Non, je sais pas.
Ses jambes et ?
Ses fesses. Ah
c'est
non, et c'est quand vocal. J'allais le dire, oui, c'est quand vocal.
5,4, oui. Ça s'assure. Hein. En fait, ses jambes, c'est parce qu'elle est devenue l'égérie de la marque Gillette. Je pense que c'était une période...
Ça devait être il y a longtemps.
Oui, oui, puis je pense que c'était quand elle était au creux de la vague. Et c'était une pub qui était appelée Jambes de déesse. Et donc, du coup, elle a souscrit une assurance parce que ça tombait en même temps qu'une tournée. Et évidemment, elle ne souhaitait pas prendre de risques.
Je comprends.
On la comprend. Assurée pour 695 millions d'euros.
Oh. Eh ben.
C'est des bonnes jambes, finalement. Troisième question. En 2019, la chanson All I Want for Christmas Is You a fêté ses 25 ans. Et pour l'occasion, Maria Carré a dévoilé un clip avec plusieurs célébrités. Cite-moi-en trois.
Cite-moi-en trois, même.
Ouais.
Jennifer Hudson.
Attends, parce que je les ai tous. Il faut que je regarde. Ça va être long. Oui, elle y est.
Justin Bieber.
Alors, il a fait une reprise avec elle de cette chanson.
Ariana Grande.
Oui, elle y est.
Et tu t'en veux une troisième ?
Ouais.
Alors, attends, Jennifer Aniston. Nicki Minaj. Je crois. Mais je suis pas sûre à 100%. Je crois que oui.
Malheureusement, il n'y a pas Nicki Minaj.
Taylor Swift ?
Non plus. Tu aurais pu me dire Kim Kardashian, Kris Jenner.
Je me rappelais pas.
Il y avait également Snoop Dogg.
Ah, mais oui !
Katy Perry et Nick Cannon.
Toujours les mêmes.
Ben voilà.
Et oui.
Bon, bah, c'est pas bien réussi.
Ça va, j'ai cité deux noms.
Mais une dernière question.
Ouais.
Après ses grossesses, Maria Carré va essayer de nombreux régimes. Et puis, elle va en adopter un assez particulier. Quelle est la seule règle de ce régime ?
Ne pas manger ?
Non.
Ah, je sais. Manger qu'avec une fourchette ?
Non.
Qu'avec une cuillère ?
Non.
C'est comme ça ?
Non, pas du
Alors,
tout.
Alors, vas-y.
Manger uniquement... des aliments de couleur
verte,
violette.
Donc du chou, éventuellement de la betterave.
C'est ça. C'était pas à jour.
Des pommes de terre violettes.
Je peux pas continuer cette conversation culinaire.
Ok, bah merci Elisa.
Bah écoute, voilà, c'était mi figue mi raisin.
Et oui.
In this time of fear, when we're so often proved.
C'est la fin de cet épisode et on se quitte en écoutant Le Prince d'Égypte, When You Believe, la partie Maria Carré, évidemment. On vous remercie de nous avoir écoutés pour cet épisode de Noël et on est sûr que vous allez tout de suite écouter en famille All I Want For Christmas Is You et n'hésitez pas à écouter la version de Olivia Olson, sauf si vous êtes sur Spotify puisqu'on vous rappelle qu'ils l'ont enlevé. S'il vous plaît, remettez-la. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Alors ce ne sera pas un épisode de Nouvel An, ce sera un épisode sur une de vos artistes préférées. En tout cas, nous, c'est quelqu'un qu'on adore. En attendant, n'oubliez pas d'acheter votre Elle en kiosque et de lire plus d'infos sur elle.fr. Salut Elisa.
Salut.
Elle débrief.
Elle débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle débrief en ligne sur les plateformes.
Élodie Petit et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.